France Inter.
Le journal, Laurence Thomas, bonjour.
Bonjour Mathilde, bonjour à tous. Dans l'actualité de ce lundi, le conflit au Proche-Orient, le cabinet de guerre israélien divisé sur la réponse à donner à l'attaque iranienne. Des centaines de personnes hier soir à Romans-sur-Isère, un rassemblement hommage à l'adolescent tué pour s'être interposé lors d'une altercation. Ouverture ce lundi de la campagne vaccinale contre le Covid-19, cinquième injection, vivement recommandée pour les personnes âgées et immunodéprimées. Et puis une amende de 750 euros. L'Office national des forêts rappelle une règle méconnue des propriétaires de chiens. Il faut tenir son animal en laisse, en forêt, à partir d'aujourd'hui jusqu'à fin juin pour préserver la faune sauvage.
Et dans 20 minutes, gros plan sur le pass colo, cette nouvelle aide du gouvernement pour les familles qui n'ont pas les moyens d'envoyer leurs enfants en colonie de vacances.
France Inter.
Quelles représailles israéliennes après l'attaque de drones et de missiles iraniens sur l'État hébreu?
Le cabinet de guerre israélien, réuni hier soir par le Premier ministre Benjamin Netanyahou, est divisé sur la réponse à donner à Téhéran, sachant que le président américain a averti Israël que Washington ne participera pas à une éventuelle riposte contre l'Iran. Une majorité de ministres se dit favorable à une réplique, mais des désaccords internes persistent quant au calendrier et à l'étendue des représailles, Thibault Lefèvre.
Deux camps s'opposent dans le gouvernement israélien. D'un côté, les bellicistes, les partisans d'une ligne dure, l'extrême droite sioniste et religieuse favorable à une réponse forte et immédiate de l'armée, et puis les défenseurs d'une stratégie plus mesurée, comme l'ancien chef d'état-major Benny Gantz. C'est un des rares ministres à s'être exprimé publiquement hier pour une réplique, mais à condition qu'Israël rassemble autour de lui une coalition. Les désaccords portent donc sur le calendrier et la méthode, et au milieu, il y a le Premier ministre Benjamin Netanyahou. Dans la nuit de samedi à dimanche, il a échangé avec le président américain Joe Biden, qui a assuré qu'il ne le soutiendrait pas en cas de réponse immédiate. Et puis Israël a d'autres priorités, à Gaza notamment, où deux brigades de réservistes ont été mobilisées hier pour continuer à débusquer les leaders du Hamas et chercher les otages. L'organisation islamiste a envoyé à l'État hébreu une nouvelle proposition d'accord. Elle porte sur un échange d'otages et de prisonniers et un cessez-le-feu de 42 jours.
Thibault Lefèvre à Jérusalem pour France Inter. Et pendant ce temps à New York, l'Iran affirmait hier devant le Conseil de sécurité de l'ONU ne pas avoir eu, je cite, d'autre choix que d'exercer son droit à l'autodéfense en lançant des centaines de drones et de missiles vers Israël, riposte à une frappe imputée à Israël contre le consulat d'Iran à Damas. C'était le 1er avril. Les conséquences en France de cette crise au Proche-Orient, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, demande au préfet de renforcer la sécurité devant les lieux de culte juifs ainsi que devant les écoles confessionnelles, notamment en prévision des fêtes de Pessah, la Pâque juive du 22 au 30 avril. Du jamais vu pour un ancien locataire du bureau ovale aux États-Unis, tel un citoyen ordinaire, le 45e président des États-Unis va s'asseoir sur le banc des accusés dans un tribunal de New York. Ouverture du procès pénal de Donald Trump, candidat pour le prochain scrutin présidentiel. Le républicain comparaît à Manhattan pour une affaire de paiement destinée à acheter le silence de l'ancienne star du X, Stormy Daniels. Il risque en théorie une peine de prison, mais cela ne l'empêchera pas d'être candidat.
France Inter 6h03, 300 personnes rassemblées hier soir à Romans-sur-Isère.
Un hommage à Zacharia, l'adolescent de 15 ans, tué à coups de couteau pour s'être interposé lors d'une altercation dans le quartier de la Monnaie. Quatre personnes d'une même famille ont été mises en examen dans cette affaire qui a endeuillé la ville de Romans-sur-Isère, ville où l'émotion est toujours très grande. Julien Raymond, France Bleu Drôme Ardèche.
On n'avait pas prévu qu'il y ait autant de monde ce soir, en définitive.
Au milieu d'un immense cercle, Philippe, figure du quartier et éducateur spécialisé, prend la parole. Un mot pour Zacharia, pour la famille, mais surtout un message de paix et de solidarité.
Tout le monde est retourné, mais tout le monde est là malgré tout pour la famille. Donner une image du quartier à l'extérieur. Quand on est dans le quartier n'est pas noir de l'intérieur, il ressemble à du charbon brûlé peut-être de l'extérieur, mais à l'intérieur c'est vraiment un super endroit quoi.
La tête baissée, visage grave, Bilal, un très bon copain de Zacharia, n'arrive toujours pas à y croire.
C'est un vide sans lui, c'est pas la même ambiance. Il faisait rire, il était sympa. Du jour au lendemain, tu perds ton collègue, ça fait mal au cœur.
La colère gronde aussi contre Marie-Hélène Toraval. Depuis la mort de Thomas à Crépol il y a 5 mois, la mère de Roman ne cesse de pointer du doigt la Monnaie et c'est insupportable pour Khedija, l'une des mamans.
Tout ce que vous voyez là, cette montée de violence ici, c'est quand même Madame Toraval qui l'a engendré tout ça. Parce que c'est bien beau qu'elle fasse ses beaux discours sur les médias. Elle est où là? Elle est où Madame Toraval? Elle n'est pas là, malheureusement.
Une marche blanche également sera organisée vendredi pour rendre un dernier hommage à Zacharia.
Julien Raymond de France Bleu Drôme Ardèche. Le Covid-19, il est toujours là. Une nouvelle campagne de vaccination démarre aujourd'hui pour les patients à risque. Sont concernés en particulier les personnes âgées de plus de 80 ans, les résidents en EHPAD et les patients immunodéprimés. Ces derniers, mal protégés par le vaccin, se sentent abandonnés par le reste de la population qui a renoncé à tout geste barrière. Victor Dolande.
Florian Girard a 41 ans. Atteint de la mucoviscidose, il a subi une transplantation pulmonaire il y a quelques années. Pour se protéger du coronavirus, il a déjà reçu 4 injections du vaccin en 4 ans, une 5e piqûre cette semaine. Et contrairement au reste de la population,
le Covid n'est pas fini.
Il continue à faire très attention au virus.
Dans le métro, dans le train, j'ai mon masque FFP2, hein, pas masque chirurgical, parce que ça ne me protégerait pas assez. Je suis le seul à porter le masque en général dans les transports, donc le reste de la population, pour eux c'est fini, il n'y a plus de Covid. Du coup, on a un peu la pression d'être un peu livré à nous-mêmes, d'être seul justement face au Covid.
Au fond de lui, il aimerait plus de solidarité de la part des Français. Un message également porté par Ivani Caillet, fondatrice de Rénalou, une association qui s'occupe des malades du rein.
Continuer à porter un masque, même si ce n'est pas pour se protéger soi, même si on ne le fait que pour protéger les plus fragiles, c'est un geste de solidarité important qu'on aimerait voir plus fréquemment, par exemple dans les hôpitaux, dans les lieux de soins et dans les transports en commun.
Et pour appuyer sa demande, elle rappelle que les patients immunodéprimés sont surreprésentés parmi les patients les plus sévères du Covid. Ils sont moins de 300 000 en France et pourtant, ils sont plus de 20% parmi les malades touchés par des formes graves.
Victor Dolande, énorme frayeur hier soir à Antibes. Les 7 balcons d'un immeuble de 7 étages se sont effondrés sans faire de victimes. 7 autres balcons qui composent la façade de l'autre côté du bâtiment menacent également de s'effondrer. L'immeuble a été entièrement évacué et un périmètre de sécurité mis en place. À présent, cet arrêté ministériel qui date de 1955 est peu respecté car peu connu. Il oblige les propriétaires de chiens à les tenir en laisse chaque année à partir du 15 avril jusqu'au 30 juin lors des promenades en forêt. Les animaux doivent rester sur les allées forestières. La mesure est censée protéger la faune, rappelle l'ONF, l'Office National des Forêts. Et pourtant, certains ont encore une fois prévu de faire de la résistance. C'est le reportage dans la forêt de Meudon, près de Paris. Ajra Mohamed.
Elle renifle l'herbe, gratte le sol avec ses pattes à la recherche d'une petite balle.
Va chercher ta balle.
Timaya, petite malinoise d'un an et demi, profite de sa sortie hebdomadaire en forêt en toute liberté. Et pour Olivier, son maître, hors de question de lui passer la laisse au cou.
C'est le seul moment où elle se sent en liberté. Là, elle va à gauche, elle va à droite, il n'y a pas de voiture, elle risque rien. Donc voilà, j'espère qu'on ne risquera pas la prison parce qu'on laisse notre chien en liberté en forêt.
Pas de prison, mais peut-être une amende jusqu'à 750 euros, c'est ce que risque aussi Nadine.
Il ferait mieux de faire la chasse à ceux qui font du dépôt sauvage, parce que ça, il y en a partout.
Mais cette règle est essentielle si on veut protéger la faune locale, très vulnérable en cette saison, rappelle Christian Letourneau, naturaliste à la Ligue pour la protection des oiseaux.
Vous avez les oiseaux, certaines espèces qui nichent au sol. Vous avez aussi des naissances, des jeunes ongulés comme chevreuil ou le cerf. Et donc un chien qui divague dans la nature peut perturber les oiseaux qui sont en train de nicher ou potentiellement les attaquer et les manger. Donc voilà, le gros risque, il est là.
L'Office national des forêts promet que la verbalisation ne sera pas automatique. Ses agents feront preuve de pédagogie pour que la balade en forêt reste avant tout un plaisir pour les maîtres et leurs toutous.
Ajra Mohamed.
Paris 2024, c'est dans quasi 3 mois et 45 000 bénévoles sont dans les starting blocks.
Presque aussi impatients que les sportifs eux-mêmes. Et les bénévoles ont été choisis parmi 300 000 candidats. Ils commencent donc leur préparation, tout de turquoise vêtu. Ils vont être formés pour accueillir le public, les athlètes. Un tiers va participer à l'organisation des épreuves. 20% d'entre eux sont étrangers. Les autres ont été sélectionnés dans toutes les régions françaises. Portrait de l'un d'eux qui viendra du Lot et Garonne. Béatrice Duguay l'a rencontré.
Les Jeux Olympiques, Grégory Wauters s'y voit bien, depuis longtemps, mais sans avoir forcément les moyens de ses ambitions.
J'ai toujours voulu être sportif de haut niveau. J'ai toujours dit que je voudrais faire les Jeux Olympiques. Et hélas, je n'avais pas les compétences. Et donc, la seule façon de faire les Jeux Olympiques, eh ben, c'est d'être bénévole. Oh, j'ai la chance d'être au Grand Palais, c'est un super endroit. Je vais assister à l'escrime et au taekwondo.
Il accueillera les spectateurs, les dirigera vers leur place et sécurisera les tribunes, un rôle qu'il a déjà tenu dans son club de foot de Marmande. normande. Bref, il a les qualités requises.
Accueillant, observateur, diplomate, très diplomate même. Et puis, il faudra parler un peu anglais. Bon, c'est un peu mon cas, heureusement.
Grégory Waters a 51 ans.
Je suis cariste magasinier et je travaille dans la logistique.
Il a déjà été volontaire aussi en 98 pour la finale de la Coupe du Monde de foot.
Bah, rebelote, je repars comme bénévole pour les Jeux Olympiques. C'est super, quoi. Je suis comme un enfant, heureux.
Il devrait toucher son pactage cette semaine à Bordeaux, le short pantalon, les polos verts et bleus en marinière, le chapeau rose, la veste beige, pour des journées qui ne seront pas de tourpeau.
On va travailler sur 5 jours ou 6 jours d'affilée, c'est des journées de 7 heures, bon, on reste 6 heures debout, hein, donc je vais m'entraîner un peu, faut pas croire, hein. Je vais faire du sport avant de commencer les Jeux Olympiques moi aussi. Hein.
Pas de galère de logement pour Grégory, il dormira chez son frère qui habite Clichy, et il a bien l'intention de lui ramener des photos souvenirs de médaillés d'or olympiques.
Béatrice Duguay, les JO, ça continue, on continue d'en parler dans ce 5-7 avec Mathilde Munoz.
Oui, Laurence Thomas, vous me facilitez la tâche pour enchaîner avec l'esprit sport, puisque cette chronique sera désormais 100% olympique et paralympique. Nous allons vous faire découvrir les sportifs qui vont marquer la compétition. Bonjour Guillaume Battin.
Bonjour.
On commence cette série de portraits avec le sprinteur américain Noah Lyles.
Devenir la grande star des Jeux de Paris, succéder à l'immense Usain Bolt, voilà l'énorme ambition de Noah Lyles. Et pour ça, il veut décrocher pas moins de 4 médailles d'or cet été à Paris. Celle du 100 mètres sur la piste d'athlétisme du Stade de France. Ce serait déjà énorme, comme 16 Américains l'ont déjà fait avant lui, depuis les premiers Jeux de l'ère moderne en 1896 à Athènes. Mais il veut aussi l'or du 200 mètres et les deux relais 4x100 et 4x400.
Alors Noah Lyles a tout pour devenir la star des Jeux de Paris par ses performances sportives, mais aussi pour son charisme.
Et sa liberté de parole pour défendre, par exemple, les victimes de violences policières aux États-Unis, pour parler de sa fragilité mentale, sujet tabou chez les sportifs, et la prise de tranquillisants. Sa liberté, tout court, de porter du vernis aux ongles aussi. Les médias et les sponsors l'adorent. Il se l'arrache. Un équipementier lui a même fait signer un contrat de 10 millions de dollars. Et tout ça, cette liberté, parce que c'est un artiste aussi, il la chante en rappant. Noah Lyles est donc l'homme qui voulait décrocher 4 médailles d'or à Paris, un exploit rarissime que seuls 2 athlètes ont réalisé dans l'histoire, 2 Américains comme lui, des légendes, Jesse Owens aux Jeux de 1936 à Berlin, Carl Lewis aux Jeux de Los Angeles en 1984, on verra ça pour Noah Lyles, 4 médailles d'or, gros challenge quand même, les Jeux de Paris s'ouvrent dans 102 jours.
Guillaume Battin pour l'Esprit Sport.